Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Ça laisse beaucoup d'autres familles dans le silence parce qu'il y a eu d'autres meurtres, d'autres crimes sur lesquels il n'aura pas à s'expliquer. Et donc, il y a un sentiment de colère.
La mort à 79 ans du tueur en série Michel Fourniret, condamné deux fois à la perpétuité pour le meurtre de 8 jeunes femmes et adolescentes. L'ogre des Ardennes est décédé en emportant ses secrets, notamment le lieu où il a enterré le corps de la petite Estelle Mouzin. Il n'a que 19 ans, le tueur présumé du brigadier Éric Masson est ce soir en garde à vue, ainsi que 3 autres personnes, à la veille de l'hommage national qui sera rendu demain aux fonctionnaires à Avignon. Tension maximale ce soir entre Palestiniens et Israéliens. Le Hamas a tiré plusieurs salves de roquettes depuis la bande de Gaza. Représailles ce soir de l'armée israélienne avec des frappes aériennes. Nous serons en direct de Jérusalem. L'actualité ce soir, c'est aussi l'ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans. Un événement très attendu, notamment à Lille, où ils étaient nombreux aujourd'hui à se ruer au vaccinodrome. Et puis non, les Covid longs ne sont pas des malades imaginaires. 60% des patients hospitalisés à cause du virus sont toujours affectés par au moins un symptôme 6 mois après l'infection. La météo, 5 départements sont ce soir en vigilance orange pluie inondation, l'Ain, l'Ardèche, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire. Le sud-est où le temps restera très agité demain, partout ailleurs le ciel oscillera entre averses et éclaircies, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a terminé à l'équilibre ce soir, plus 0,01% à 6358 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Les touristes étrangers ont très envie de revenir en France. Les réservations flambent. Pour en parler, Manuel Dutheil reçoit ce soir Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde et président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On ne connaîtra donc jamais tous les secrets de celui que l'on a surnommé l'ogre des Ardennes. Michel Fourniret, l'un des pires tueurs en série français, est décédé cet après-midi à la Pitié-Salpêtrière à Paris, hôpital où il avait été hospitalisé ce week-end, Guillaume Bier.
Oui, son état de santé s'était encore dégradé au point que le tueur en série avait été une nouvelle fois hospitalisé en urgence dans un état critique, en insuffisance respiratoire. Son pronostic vital était engagé de manière irréversible, nous disait-on à la mi-journée. Et à 15h, le décès de Michel Fourniret a été officiellement prononcé. C'est donc sur son lit d'hôpital que l'ogre des Ardennes, 79 ans, a succombé. Lui qui était déjà physiquement diminué depuis des années et qui souffrait aussi d'une maladie dégénérative, lui faisant notamment perdre la mémoire. D'où ses difficultés à répondre aux questions de la juge Kéris ces derniers mois et à faire avancer l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, qu'il a reconnu avoir tué, mais dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. Michel Fourniret, l'incarnation de la perversité, le tueur aux formules alambiquées, emporte avec lui nombre de secrets criminels, car des soupçons pesaient toujours sur lui. Des comparaisons ADN sont d'ailleurs en cours pour savoir s'il pouvait être impliqué dans d'autres dossiers non élucidés. Ces réponses, les familles les attendent encore, mais le casier judiciaire de Fourniret ne pourra plus s'alourdir. Il aura donc été condamné 2 fois à perpétuité pour 8 meurtres au total.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Et concernant l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin que vous évoquiez à l'instant, Guillaume, vous avez pu joindre l'avocat du père de la petite fille, maître Didier Seban, qui garde un souvenir glaçant de Michel Fourniret qu'il a croisé à plusieurs reprises.
Quand on a croisé Michel Fourniret, on a le sentiment que l'humanité était sortie de son personnage et qu'il n'y avait que l'envie de faire mal. Vous savez, Éric Mouzin disait souvent « Je n'attends rien de Monique Olivier, rien de Michel Fourniret, mais tout de la justice ». Je crois que c'est ce sentiment-là, c'est-à-dire il y a le travail à faire, le travail doit se poursuivre, la recherche du corps d'Estelle doit se poursuivre. Et puis, évidemment, ça laisse beaucoup d'autres familles dans le silence parce qu'il y a eu d'autres meurtres, d'autres crimes sur lesquels il n'aura pas à s'expliquer. Et donc, il y a un sentiment de colère et puis cette idée que il faut en tirer les conséquences, il faut que ça change, il faut que la justice française qui fonctionne comme au 19e siècle se dote maintenant de moyens, d'un pôle national sur les crimes non élucidés, et d'un pôle national sur les tueurs en série pour qu'on arrête de fonctionner chacun dans son coin et ne résoudre que très peu d'affaires.
Maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin qui réagissait à la mort du tueur en série Michel Fourniret. Notez que le père d'Estelle Mouzin sera demain matin à 6h40 l'invité de Sébastien Krebs sur Europe 1. L'actualité ce soir, c'est aussi l'enquête sur la mort du brigadier Éric Masson à Avignon mercredi dernier. Enquête qui a connu hier soir une spectaculaire avancée avec l'interpellation de 4 personnes, dont le tireur présumé. Le procureur d'Avignon a donné cet après-midi une conférence de presse et vous y étiez, Stéphane Frangy.
Eh bien, le procureur Philippe Guémas est resté très prudent. Il confirme ce scénario de la tentative de fuite des suspects vers l'Espagne et l'étau qui s'est resserré autour d'eux depuis vendredi. Le procureur qui a surtout dévoilé le profil des 3 personnes interpellées sur ce péage autoroutier de l'Ouest avignonnais hier soir.
Je peux vous préciser que les 2 personnes interpellées et qui étaient recherchées sont toutes les 2 très jeunes, puisqu'elles ne sont âgées que de 19 et 20 ans. Et que malgré leur jeune âge, ils ont tous les 2 déjà été condamnés plusieurs fois, notamment par le tribunal pour enfants, pour des faits de violence et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le cas du conducteur du véhicule semble être quelque peu différent, puisque lui est âgé d'une 50aine d'années, et son rôle exact devrait être précisé par l'enquête.
Voilà, pas d'autres déclarations du procureur qui attend le développement des gardes à vue qui peuvent durer 48 heures maximum. Nous sommes en phase d'attente, a-t-il conclu. Nous devons d'abord recouper tout ce qui est dit durant ces auditions.
Stéphane Frangy à Avignon pour Europe 1, Avignon où un hommage national à Éric Masson aura lieu demain en présence du Premier ministre. Les forces de l'ordre une nouvelle fois visées à 2 reprises aujourd'hui. Tout d'abord à Lyon où un tag faisant référence au meurtre du brigadier a été découvert ce matin. L'inscription menace du même sort les policiers de la brigade spécialisée de terrain du 8e arrondissement de la ville. Et puis cet après-midi, une femme en état de démence a blessé au couteau un policier qui intervenait pour la maîtriser à son domicile à Pessac près de Bordeaux. Un collègue du fonctionnaire attaqué a fait usage de son arme. L'assaillante a été tuée. C'est donc dans ce contexte très lourd et pesant pour les forces de l'ordre que Jean Castex est en train de s'entretenir avec leur syndicat, excédé par la violence dont policiers et gendarmes sont de plus en plus la cible. Il réclame notamment des sanctions pénales plus fortes contre les auteurs des violences sur les forces de l'ordre.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
À l'étranger, la tension est maximale ce soir entre Israéliens et Palestiniens. Le Hamas a tiré des salves de roquettes en direction de Jérusalem. Réplique immédiate de l'armée israélienne qui a procédé à des frappes aériennes dans la bande de Gaza. Gwendoline de Bono, vous êtes notre correspondante à Jérusalem. C'est tout le sud d'Israël qui est ce soir en état d'urgence.
Oui, ce soir, le centre de gravité des violences s'est déplacé vers la bande de Gaza. L'armée israélienne a répondu aux roquettes tirées un peu plus tôt en menant une série de frappes dans l'enclave. Elle continue au moment où je vous parle et ce n'est que le début. Voilà ce que dit l'état-major israélien. Selon des sources palestiniennes, 20 personnes ont été tuées à Gaza, dont plusieurs enfants. Plus tôt dans la journée, on a entendu les sirènes retentir à Jérusalem. C'est extrêmement rare. La dernière fois, c'était en 2014. 7 roquettes ont explosé dans la région de Jérusalem sans faire de victimes. Un peu plus tôt dans la journée, le gouvernement avait annulé une marche des colons qui était prévue dans la vieille ville, qui devait passer par le quartier musulman. L'idée, eh bien, c'était d'apaiser les tensions à Jérusalem, mais également à Gaza. Cela n'en prend pas le chemin ce soir. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, prévient que ce conflit va durer. Le Hamas, dit-il, a franchi une ligne rouge.
Gwendoline de Bono, correspondante d'Europe 1 à Jérusalem, où on l'apprend à l'instant, de nouveaux affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens sont en cours à l'esplanade des mosquées. Retour en France, où la campagne vaccinale a connu aujourd'hui un nouveau coup d'accélérateur avec l'ouverture aux plus de 50 ans, sans exception, et manifestement beaucoup n'attendaient que ça, comme l'a constaté aujourd'hui Maximilien Carlier aux abords d'un vaccinodrome à Lille.
Madame, bonjour. Vous avez rendez-vous, madame ?
Pfizer, première dose ?
Devant le Zénith de Lille, à côté de la gare, pas de file d'attente, mais un flux continu de personnes. Des plus de 50 ans pour la plupart, soulagés à l'idée de se faire vacciner comme Hervé et Céline.
On contente de le faire parce que je pense que ça va nous apporter peut-être une liberté d'esprit, déjà en premier lieu, et certainement après une liberté de vie qu'on n'a plus.
Et avec l'ouverture des restaurants, ce sera pas plus mal d'être vacciné.
Les restaurants, les bars, Pascal de son côté y pense aussi. Lui a réussi à trouver un rendez-vous en à peine 2 jours, et c'est tant mieux.
C'est pour ça que je l'ai pris aujourd'hui, pour éviter après la cohue qui pourrait y avoir, que ça pourrait déclencher derrière, sachant que ça va être ouvert après à tout public, donc rapidement je pense. Et ça permet après d'être tranquille pour cet été.
Deuxième dose mi-juin pour ce Lillois, juste avant les vacances scolaires. Le vaccinodrome du Zénith qui monte en puissance. France, un peu moins de 2000 injections par jour cette semaine, 3000 dès lundi prochain. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et au niveau national, près de 18 millions de Français ont reçu ce soir au moins une dose. Une campagne vaccinale qui s'accélère donc et une épidémie qui dans le même temps décélère. Tous les signaux sont donc au vert pour l'échéance du 19 mai. Un déconfinement qu'a précisé ce soir Jean Castex. Les terrasses des bars et restaurants pourront rouvrir à la moitié de leur capacité d'accueil. Elle sera portée à 100% le 9 juin, date à laquelle ces établissements pourront accueillir à nouveau des clients dans leurs salles, mais avec une jauge de 50% dans un premier temps. Quant aux magasins qui pourront eux aussi rouvrir le 19 mai, ils ne devront pas accepter plus d'un client pour 8 mètres carrés, jauge qui sera là aussi assouplie le 9 juin et qui disparaîtra le 30 juin en fonction de la situation sanitaire. Nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire, affirme le Premier ministre dans une interview aux Parisiens à paraître demain. Eux, en revanche, ont bien du mal à sortir de la spirale infernale du Covid, un virus qui laisse des séquelles à long terme. C'est ce que révèle une étude menée en France par l'INSERM sur ce qu'on appelle les Covid longs, des patients qui ne sont pas des malades imaginaires, Anne Le Gall.
Exactement, car selon cette enquête menée auprès de 1137 patients hospitalisés pour Covid lors de la première vague, 60% d'entre eux souffrent encore d'un symptôme au moins 6 mois plus tard, alors que l'on ne trouve plus aucune trace du virus dans leur organisme, et 24% souffrent même de 3 symptômes ou plus, explique Jade Ghosn, l'un des auteurs de l'étude.
Les principaux symptômes, c'est la fatigue, l'essoufflement et les douleurs articulaires et musculaires. Les autres symptômes sont beaucoup moins fréquents. À noter par exemple que vous avez à peu près 7% des individus qui ont toujours une perte du goût ou de l'odorat jusqu'à 6 mois après l'infection.
Et ce suivi montre aussi qu'un tiers des personnes qui étaient en activité professionnelle au moment de l'infection n'ont pas réussi à reprendre leur travail 6 mois plus tard. Les chercheurs n'expliquent pas encore pourquoi la fatigue ou les douleurs persistent chez certains anciens malades, mais selon leurs travaux, le fait d'être une femme, d'avoir souffert d'une forme de maladie très symptomatique dès le départ ou d'avoir été prise en charge en réanimation augmente ce risque de symptômes persistants.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. On termine ce journal avec cette grande vente aux enchères en ce moment de créations ayant appartenu au célèbre couturier Kenzo. Ça se passe sur le site internet d'Arcurial et il y a des pièces exceptionnelles, Diane Genouda.
Ah oui, on a des robes kimono, un long manteau rouge magnifique, des vêtements très japonisants, c'est vraiment l'esprit Kenzo, avec ses couleurs pop, ses imprimés fleuris, des pièces spectaculaires ici exposées. Clara Vivien, spécialiste mode chez Arcurial.
Mais oui, il y a des kimonos, effectivement des kimonos du soir, qui sont pas juste des kimonos d'intérieur et qui ont été travaillés de façon différente dans des matières qui d'habitude sont utilisées pour des smoking, par exemple du grain de poudre, du satin. Donc vraiment, on est sur des pièces très chic et qui ont été légèrement détournées, mais toujours avec ce savant mélange entre l'Orient et l'Occident qui était très intéressant, le travail de Kenzo.
Des pièces d'autant plus fascinantes qu'elles n'avaient jamais été commercialisées.
Ce qui est très intéressant dans cette vente, c'est que c'est une collection qui n'a jamais été présentée au public, puisque c'est un projet de marque qu'il avait développé entre 2005 et 2008, qui avait été laissé en stand-by pour le moment et qu'on a retrouvé et découvert dans son appartement. Et pour nous, c'était une surprise incroyable de trouver ces pièces que nous n'avions jamais vues.
Une vente qui attire beaucoup de monde, comme cet habitué fan de mode.
Je suis venue parce que Kenzo, c'est quand même un nom dans la mode qui restera toujours. C'est formidable de pouvoir acquérir une pièce, une belle pièce. En plus, ici, il s'agit de prototypes, donc ils n'ont pas été mis en fabrication dans des boutiques ou autres. Voilà. Voilà pourquoi je suis venue.
150 créations en tout, qui sont donc en vente en ligne jusqu'à mercredi après-midi.
Diane Chenouda, et puis notez qu'à partir de demain va démarrer une autre vente aux enchères, 600 objets d'art et de mobilier ayant appartenu là aussi à Kenzo. Un mot de sport, Novak Djokovic est toujours au sommet du tennis après la publication du dernier classement ATP, mais derrière il y a du changement. Daniil Medvedev est désormais deuxième joueur mondial, le russe détrône Rafael Nadal qui glisse à la troisième place. L'allemand Alexander Zverev, vainqueur du Masters 1000 de Madrid hier, est sixième. Quant au premier français, c'est Gaël Monfils, il est quinzième. Notez qu'aucun américain ne figure parmi les 30 meilleurs joueurs mondiaux, une première depuis la création du classement en 1973. La météo, prudence ce soir si vous habitez le sud-est. 5 départements sont en vigilance orange pluie inondation. Il s'agit de l'Ain, de l'Ardèche, du Rhône, de la Loire et de la Haute-Loire. Sud-est où l'on attend encore beaucoup de pluie demain, Anissa Haddadi.
Oui, avec dès demain matin, Julien, de l'Alsace à la Côte d'Azur, tout le long de la façade est, des pluies soutenues, parfois sur le Lyonnais et la Corse. Elles seront accompagnées de coups de tonnerre. Sur les Alpes, il neige à partir de 2000 mètres d'altitude et ça va durer toute la journée. Partout ailleurs, nous avons un ciel qui alterne en traverse et éclaircie. En gros, il va vous falloir un parapluie demain, au moins par sécurité. De la Bretagne à la région parisienne, en passant par la Normandie, demain matin, le temps est sec avec de belles éclaircies. Dans l'après-midi, les averses vont se généraliser et vont concerner toutes les régions, sans exception. À l'est, en Alsace et dans les Alpes, le temps reste très pluvieux, des pluies soutenues. Et puis pas mal d'orages qui éclatent dans l'après-midi tout le long de la façade est, dans les Ardennes, du côté de la Gironde également, en Provence et dans le Nivernais, pas mal d'orages localement forts. Les températures comptaient 6 à 10 degrés en général demain matin. Nous aurons 6 à Caen, 8 à Rennes et Saint-Etienne, 9 degrés pour Lille, 11 à Paris, 12 à Strasbourg et déjà 15 degrés à Nice demain matin, au meilleur de la journée. Il fera frais, des températures de saison, avec 11 degrés à Aurillac, 13 au Puy-en-Velay, 16 pour Bordeaux et Dunkerque, 17 degrés à Lyon, 18 pour Paris, 19 à Nice et Lille et 20 la maximale pour Marseille.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamaud de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Il paraît que les touristes étrangers ont très envie de revenir en France. C'est en tout cas ce que montrent les réservations qui flambent. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde et président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street bat de nouveaux records sur le Dow Jones, mais les valeurs technologiques ne suivent pas le mouvement.
Un marché coupé en deux, encore une fois. Un Dow Jones qui culmine au plus haut toujours, hein, 34 745 points, qui est stable au sommet. Et puis un Nasdaq qui baisse fortement de 2,5%, 2,55%. L'indice des valeurs de technologie est à 13 402 points. Donc d'un côté, on a les valeurs cycliques qui soutiennent le marché sur l'anticipation d'une reprise économique vigoureuse au sortir de la crise sanitaire. Alors là, on retrouve les groupes industriels comme 3M, plus 2%, Procter & Gamble, plus 1,8%, General Electric, plus 0,5%, Caterpillar, plus 0,8%. En revanche, ça ne va pas du tout sur les technologies qui avaient beaucoup monté, hein, qui avaient beaucoup progressé ces derniers mois. Alors donc, ça baisse. Il y a des prises de bénéfices assez brutales sur des valeurs comme Apple, moins 2,5%, Facebook, moins 4%, Tesla perd même 6%, 6,4% exactement, $629. On a Amazon qui perd 3% avec Google. Microsoft aussi, moins 2%. Donc, pas mal de casse ce soir. Beaucoup de prises de bénéfices sur les valeurs de technologie. Le pétrole reste ferme. Il ne varie pas vraiment sur les $65 le baril. L'euro remonte un petit peu face au dollar encore. 1,2140 ce soir.
La Bourse de Paris a terminé, quant à elle, la séance sur une note parfaitement stable.
Oui, c'était beaucoup plus calme. 6386 points sur le CAC 40, après avoir frôlé quand même en séance les 6400 points au plus haut depuis novembre 2000, hein, depuis plus de 20 ans. Il y a quand même eu quelques valeurs en baisse, des valeurs qui ont bien progressé ces dernières semaines. On a redonné du terrain sur Quadian, moins 5,6%, sur Trigano, moins 2,5%. Et les valeurs semi-conducteurs, avec toujours le problème de pénurie, Soitec, moins 2%, STMicro, moins 2% aussi, et puis quelques prises de bénéfices sur le groupe Gorgé qui recule de 1,8% ce soir à 15,06 €.
Exception du jour, le secteur bancaire qui est nettement remonté.
Oui, c'était la bonne surprise du jour avec les valeurs bancaires qui n'avaient pas vraiment réagi la semaine dernière aux bons chiffres trimestriels. Et puis là, ça a décollé avec des acheteurs qui sont revenus en force sur le Crédit Agricole, plus 4%, 13,37 € après des comptes meilleurs que prévus au premier trimestre avec l'aide du dynamisme des activités de marché. Et puis la Société Générale a gagné 3%, 25,63 € après l'annonce de sa feuille de route avec une rentabilité sur capital de plus de 10% attendue d'ici 2023. Les autres places financières en Europe sont assez stables aussi. Le DAX inchangé à Francfort, Londres ne bouge pas, Milan gagne quand même 0,7%. Le CAC 40 donc inchangé ce soir, 6386 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de boursier.com et à demain Didier. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-François Rial.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête du groupe de voyage Voyageurs du Monde et vous êtes également depuis fin mars le président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Et c'est avec cette deuxième casquette que nous avons eu notamment envie de vous inviter ce soir. Parce que selon vous, Paris doit se concentrer sur l'expérience client et c'est comme ça qu'on fera revenir les clients et les touristes étrangers. Pourquoi ? Jusque-là, on faisait pas ça bien à Paris ?
Si, on faisait ça correctement, mais je dirais que quand on a une ville aussi attractive que Paris, qui donne autant envie que Paris, et qu'on a cette chance de ne pas être obligé de communiquer en masse, de façon très très forte, pour pouvoir attirer les gens, parce que les touristes internationaux viennent naturellement à Paris, il faut se concentrer sur ce que j'appelle l'excellence de l'expérience client, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au top niveau sur le service, dans les restaurants, dans les cafés.
Mais ça fait mille fois qu'on entend ça. Comment on fait pour que concrètement ça se traduise dans les faits ?
Ça fait mille fois qu'on le dit, mais en fait on a quand même fait des progrès. Parce que lorsqu'on a lancé toute cette affaire de culture, de service avec Grand Fabius il y a quelques années sur le tourisme français, les choses ont quand même changé. Elles sont pas parfaites, mais elles ont changé. Il faut par exemple un truc tout bête, ça paraît tout con, mais c'est absolument essentiel. Et c'est en train d'être fait, augmenter le nombre de samizdats publics pour ceux qui circulent dans la ville. Parce que ça, c'est un service fondamental à fournir à ceux qui nous visitent. Mmh. Et je dirais que, d'une façon générale, on a intérêt à augmenter notre expérience, la qualité de l'expérience client, parce que plus elle est bonne, plus les gens génèrent un bouche à oreille positif. Donc en fait, c'est de la com aussi, certains.
Bien sûr.
C'est pas que améliorer la qualité du risque. C'est aussi de la com. C'est pour ça que je pense qu'à court terme, post-Covid, on aura vraiment intérêt à se concentrer là-dessus. Même si, bien sûr, il faudra continuer à communiquer de façon intelligente, en particulier sur les outils numériques.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Jean-François Rial, que d'une certaine manière, la destination Paris va avoir la chance d'être sûrement l'une des plus plébiscitées dès qu'on va vraiment pouvoir revoyager parce que les gens vont vouloir revenir.
Exact. On va avoir cette chance. Et donc, il ne faut pas qu'on soit déceptif. Donc, il faut qu'on soit au top niveau sur la qualité de service, qu'on soit au top niveau sur ce qu'on nous critique, sur la gestion des travaux, tous ces problèmes où on nous critique sur la propreté et sur, la tenue générale.
La campagne en ce moment, la Saccage Paris, que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux, vous inquiète d'un point de vue mondial ? Vous pensez qu'elle aura des répercussions ?
Non, elle ne m'inquiète pas. Elle ne m'inquiète pas parce qu'elle est très largement, très exagérée. Il y a des efforts colossaux qui sont en train d'être faits sur ce sujet-là. On mélange propreté et gestion des travaux. Par exemple, lorsque j'évoque la transparence des poubelles, par exemple, ça donne une impression de saleté. Alors, c'est pas sale, mais ça donne une impression de saleté. Donc, il faut qu'on s'en occupe. Ces poubelles transparentes, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire. Parce que elles sont trop petites, elles débordent et elles donnent une impression de saleté. Donc, arrêtons de donner le bâton de Fermat. Bougeons là-dessus, quoi. C'est ces sujets-là sur lesquels il faut... Les travaux aussi, la gestion des travaux, toute la signalétique temporaire, mettre la pression sur les prestataires pour que lorsqu'ils ont fini, ils nous enlèvent les glissières en béton armé qui laissent traîner pendant des semaines et des semaines et des semaines.
Bien sûr, donc il y a beaucoup de
sujets-là. Voilà, il faut qu'on soit meilleur.
D'accord, il faut qu'on...
Et on sera meilleur.
On sera meilleur, ça c'est un mot d'optimisme et c'est important. Paris est donc la première destination au monde, la France est la première destination au monde en termes de nombre de touristes. Est-ce que malgré tout, demain, d'après vous, le tourisme sera la copie de celui d'hier ?
À court terme, oui, parce que la frustration a été énorme. Donc à court terme, oui, malheureusement, le tourisme sera similaire, mais à moyen long terme, non. Parce que les touristes sont des électeurs, que les électeurs vont mettre en place ce que j'appelle des pouvoirs écologistes progressistes, et que donc on va répartir mieux les touristes sur un même territoire. Par exemple, dans Paris, on a intérêt à aller dans des quartiers alternatifs, on a intérêt à aller dans toute l'île de France, on n'a pas intérêt à aller tous à la même heure, au même moment, au Louvre et à la Tour Eiffel. On a intérêt à élargir les horaires d'ouverture des grands musées. Et donc, je dirais que tous ces sujets-là, mieux répartir les touristes et faire un tourisme plus écologique pour qu'il ait un impact plus faible sur la planète et que les rapports avec les populations locales soient meilleurs, bah ça va venir parce que c'est le sens de l'histoire. Les consommateurs le voudront, les habitants le voudront et les électeurs politiques le voudront.
C'est en cela que Paris a une carte à jouer si jamais Paris met en place ce que vous disiez. Jean-François Rial, voilà. Est-ce que vous sentez déjà une envie des touristes étrangers de revenir.
Elle est colossale.
Mais est-ce qu'elle se matérialise, cette envie ?
Alors, elle se matérialise, tout à fait. Elle se matérialise pour tous les pays qui ont le droit de venir, les ressortissants des pays qui ont le droit de venir en France. Donc, les réservations, depuis 15 jours, 3 semaines, flambent. Bon, bien sûr, on sera pas...
De quel pays, par exemple ?
Toute l'Union européenne. Toute l'Union européenne. Les Américains, ça commence à venir, parce que les Américains, ça y est, sont autorisés à venir en Europe. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué pour les pays asiatiques, parce qu'ils n'ont pas vraiment le droit de revenir chez eux s'ils sortent. Pour des histoires de quarantaine, enfin, ils ont le droit, mais c'est très compliqué sur le plan technique. Mais je dirais que la clientèle internationale, européenne, africaine et nord-américaine, elle va revenir très très vite, elle commence à revenir très vite.
Mais là, on est encore à des niveaux tout petits pour le moment.
Non, on n'est pas à des niveaux tout petits si on compare les réservations récentes. Mmh. Évidemment, en cumul de réservations, on a des niveaux très faibles. Mais si vous raisonnez en cumul de réservations, on est pas mal du tout. En réservation récente, on est pas mal du tout.
Et donc ça, c'est plutôt un motif d'espoir. Là, je parle maintenant au patron de Voyageurs du Monde. Vous êtes un voyagiste, comme on dit, plutôt haut de gamme. Et si on regarde cette fois les Français, vous les sentez là aussi revenir assez fortement pour essayer de partir cet été ?
Je vais vous donner un seul chiffre. On a 25% des destinations qui sont certaines d'être ouvertes. En gros, les destinations de l'Union européenne. Et on a malgré tout, depuis 3 semaines, un niveau de réservation qui est égal à 70% de ce qu'il était en 2019. Sur très peu de pays. Grèce, Italie, France, Polynésie, quelques pays dont on pense qu'ils vont ouvrir, comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Mais c'est colossal. C'est-à-dire que l'envie de voyager, elle est énorme. Énorme. Et forcément, elle n'est pas spécifique aux Français. Elle est spécifique à toutes les nationalités du monde entier qui ont envie de voyager. Donc je pense que la reprise va être colossale.
Eh bien, c'est ce que l'on peut souhaiter. Un grand merci Jean-François Rial. Je rappelle que vous êtes le patron notamment de Voyageurs du Monde et également à la tête de l'Office de Tourisme de Paris. Un grand merci à vous. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. On vous retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Émission spéciale en direct de l'usine Renault de Cléon avec un invité exceptionnel, Jean-Dominique Sénard, le PDG de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec les Échos. Déconfinement, Castex fixe le mode d'emploi. Je vous en parlais plus tôt dans le journal. Les terrasses pourront ouvrir le 19 mai, mais avec une jauge de 50%, un client pour 8 mètres carrés dans les magasins. Jauges qui seront allégées le 9 juin, puis qui disparaîtront le 30 juin, si tout va bien sur le plan sanitaire. Les aides aussi vont s'alléger progressivement, notent les Échos. Les pertes de chiffre d'affaires seront compensées à hauteur de 40%. En juin, puis 30% en juillet et 20% en août. Avignon, la police réclame plus de fermeté à la justice. C'est le titre à la une du Figaro qui revient sur la réunion ce soir entre le Premier ministre et les syndicats policiers. Syndicats qui dénoncent la faiblesse de la réponse pénale. La justice est sur la sellette, écrit Yves Tréhard. Elle est rendue au nom du peuple français, mais c'est comme si ce peuple, pourtant victime de la délinquance, était interdit de parole. La moindre critique vaut certificat de fascisme, accusation d'incompétence, suspicion d'ingérence. Les magistrats qui, eux, sont autorisés à se syndiquer, contrairement aux militaires, font barrage. Le labyrinthe pénal est bien gardé, mais l'on ne peut qu'en constater les détestables conséquences, conclut l'éditorialiste du Figaro. Analyse similaire et plus politique de Nicolas Bétou dans l'Opinion. Il faut avoir un étrange sens de la contre-programmation pour avoir décidé d'envoyer Éric Dupond-Moretti faire campagne au régional dans les Hauts-de-France, alors que le laxisme de la justice est pointé du doigt, écrit le directeur du quotidien libéral. Alors certes, l'Élysée pourra, à juste titre, plaider l'augmentation inédite des moyens budgétaires consacrés à la police et à la justice. Il n'empêche, le « on a déjà fait beaucoup » ne suffira pas à rassurer l'opinion publique et une fois encore, cette demande d'ordre bénéficiera à Marine Le Pen, prédit Nicolas Bétou. On termine avec Libération. Jérusalem, retour des flammes, titre le journal. Après un week-end d'affrontements sur l'esplanade des mosquées, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui avec des tirs de roquettes palestiniennes sur la ville sainte et des représailles israéliennes ayant causé plusieurs morts à Gaza. Et Gwendoline de Bonneau, notre correspondante à Jérusalem, nous en parlait il y a quelques minutes. Un regain de tension sur fond de déshérence de la diplomatie mondiale, analyse Libé. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien.
3921 pour partager votre bonne humeur, vous appeler et témoigner dans la libre antenne.
Exactement. Et puis nous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour votre flash. À tout à l'heure.
À tout de suite.